VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 29 septembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seboudia. Tout d'abord les titres. Au dialogue national tchadien, proposition de transition prolongée et d'éligibilité du chef de la junte. En Guinée, l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara est dit co-accusé pour la première fois mercredi devant les juges et les victimes du massacre du 28 septembre 2009. Au Burkina Faso, le gouvernement déplore des complicités malheureuses dans l'attaque de lundi contre un convoi de ravitaillement dans le nord. Génocide au Rwanda, le procès de Félicien Kabuka s'ouvre aujourd'hui à La Haye. En Ouganda, le président Yoweri Museveni exclut un confinement pour lutter contre le virus Ebola dans son pays. En Afghanistan, des talibans tirent en l'air pour disperser un rassemblement de femmes en soutien aux manifestantes en Iran. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Tchad, suspendu le week-end dernier, les travaux du dialogue national inclusif et souverain ont repris hier, mercredi, dans l'après-midi, et la commission ad hoc qui a reçu mandat du Présidium pour travailler sur la sensible thématique 5, forme de l'État et l'éligibilité ou non des autorités de transition, a restitué son rapport à la plénière, où il doit être soumis au débat ce jeudi. Mais ce rapport est diversement apprécié par les participants, nous dit notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar.
Sur la question de l'inéligibilité des membres du Conseil militaire de transition, le rapport note que le contexte tchadien ne cadre pas avec la Charte africaine des droits de l'homme et donc toute autorité de transition qui désire faire acte de candidature aux fonctions électives doit simplement remplir les conditions fixées par la loi. Pour être candidat à la magistrature suprême, la commission fixe la tranche d'âge allant de 35 à 70 ans avec un mandat renouvelable une seule fois et propose le renouvellement du délai de la transition de 24 mois en maximum afin d'asseoir les institutions de la transition post-dialogue. Sur la forme de l'État, la Commission estime que la majorité des Tchadiens souhaite maintenir l'État unitaire décentralisé. Toutefois, elle propose deux référendums, le premier pour le retour à l'ordre constitutionnel et le second pour permettre au peuple tchadien de choisir lui-même la forme de l'État. Réaction de Lydie Biasemda, femme politique qui milite pour le fédéralisme.
Le peuple a choisi son option et que la volonté d'un groupe de personnes ne peut rien changer. Parce que quand c'est une aspiration, elle est profonde. Ce Tchad ne sera jamais viable sous sa forme actuelle.
Tout en plaidant pour la dissolution du Conseil militaire de transition, la Commission plaide pour le maintien du chef de la junte en fonction, mais que le Premier ministre soit nommé par le président de transition pour éviter les crises au sein de l'exécutif. Bon à savoir, toutes ces propositions et suggestions seront ramenées au débat en plénière ce jeudi. André Kordoumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, les femmes victimes de viols atroces soignées dans l'hôpital du prix Nobel de la paix Denis Mukwege, dans l'est du pays, peuvent désormais bénéficier d'une chirurgie sans cicatrice dans un nouveau service ultramoderne inauguré mercredi. Créé avec le professeur belge Guy Bernard Cadière, l'Institut africain de chirurgie minimale invasive est installé dans l'enceinte de l'hôpital de Panzi du docteur Mukwege à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, une des provinces congolaises en proie depuis près de 30 ans aux violences de groupes armés. En Guinée, le procès de l'ex-dirigeant Moussa Dadis Camara et d'une dizaine d'anciens officiels militaires et gouvernementaux s'est ouvert hier à Conakry. Ils doivent répondre du massacre commis le 28 septembre 2009 dans un stade de la capitale Abdourahmane Diop.
Des dizaines de victimes dans les travées supérieures du prétoire flambant neuf et des dizaines de journalistes et d'officiels ont été témoins dans l'après-midi de l'entrée du capitaine Camara en Boubou ainsi que 10 autres accusés. Contrairement aux règles communément en usage dans les tribunaux, la cour, assise à une tribune drapée dans les couleurs guinéennes, a accepté que les journalistes vidéastes et les photographes restent dans la salle. Les victimes attendaient depuis longtemps ce procès historique. Je suis dans un rêve, déclarait Asmaou Diallo, présidente de l'association des victimes, peu avant l'ouverture. Le capitaine Camara et ses co-accusés doivent répondre d'accusations d'assassinat, violences sexuelles, enlèvements et séquestrations, incendies, pillages et autres crimes. Le 28 septembre 2009, les bérets rouges de la garde présidentielle, des policiers, des gendarmes et des miliciens avaient réprimé un rassemblement de dizaines de milliers de sympathisants de l'opposition réunis dans un stade de la banlieue de Conakry pour manifester contre la candidature du chef de la transition à la présidentielle de 2010. Au moins 156 personnes ont été tuées et des centaines blessées et au moins 109 femmes ont été violées, selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU.
L'attaque lundi d'un convoi dans le nord du Burkina Faso résultait, selon le ministre délégué à la Défense, Silas Keïta, de complicité malheureuse. 11 personnes ont été tuées dans cette attaque et 50 portées disparues. Les précisions d'Eddy Issango.
Le général Keïta, qui s'exprimait à l'issue du Conseil des ministres, n'a pas précisé la nature de ses complicités, mais des sources locales et sécuritaires mettent en cause des informateurs civils. En route pour ravitailler la localité de Djibo, les convois avaient effectué plusieurs haltes à la requête de certains passagers et c'est lors d'une de ces haltes qu'il a été attaqué. Selon le général Keïta, qui a aussi fait état des nombreux blessés et d'importants dégâts matériels, le bilan sera précisé lors d'une conférence de presse vendredi. Des actions sont en cours pour que les voies qui mènent vers Djibo soient dégagées le plus vite possible et que la ville, qui est privée de vivres et d'articles divers, puisse être ravitaillée le plus vite possible, a révélé les ministres délégués burkinabés à la Défense. Comme d'autres localités du nord du Burkina Faso, Djibo fait l'objet depuis plusieurs mois d'un blocus des groupes djihadistes qui attaquent les convois tentant de ravitailler la région.
Le procès de Félicien Kabuka, financier présumé du génocide au Rwanda en 1994, s'ouvre ce jeudi devant un tribunal des Nations Unies à La Haye. L'ancien homme d'affaires, âgé aujourd'hui de 87 ans, était en 1994 l'un des plus riches du Rwanda. Arrêté en 2020 près de Paris, après 25 ans de cavale, il est jugé pour avoir mis sa fortune et ses réseaux au service du génocide qui a fait plus de 800 000 morts selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a exclu mercredi d'imposer un confinement pour lutter contre le virus Ebola, dont des cas ont été détectés en Ouganda. Selon lui, son pays a la capacité de contenir l'épidémie. Il y a eu 24 cas et 5 décès confirmés, a déclaré le président Museveni lors d'un point de presse télévisé. Quelques 19 personnes classées comme cas probables sont également mortes, a-t-il ajouté, expliquant toutefois qu'elles ont été enterrées sans être testées pour l'infection.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le puissant ouragan Ian balayait mercredi la Floride. Ses vents violents et ses pluies torrentielles ont déjà causé des inondations catastrophiques et des coupures de courant généralisées. Rosine Mounezero.
Près de 2 millions de foyers étaient privés d'électricité mercredi soir en Floride, principalement autour de la trajectoire de l'ouragan, selon le site spécialisé Power Outage. Charriant des vents allant jusqu'à 185 km à l'heure, Ian a touché terre le long de la côte de Cayo Costa, dans le sud-ouest de l'État, à 15h05 locale, d'après le Centre national des ouragans américains. L'ouragan causait des inondations catastrophiques, a précisé le centre. Jusque-là classé en catégorie 4, sur les 5 que comporte l'échelle de Saffir-Simpson, Ian est désormais en catégorie 3 mais reste destructeur, selon cette même source. L'ouragan Ian devrait s'affaiblir au fil de son passage dans les terres, mais pourrait tout de même provoquer des dégâts significatifs en atteignant l'est de la Floride, a précisé le Centre national des ouragans américains. Le gouverneur Ron DeSantis a affirmé mercredi soir qu'il s'agirait probablement d'un des 5 plus forts ouragans ayant jamais frappé la Floride.
Légèrement à l'écart du trajet de l'ouragan près de l'archipel des Keys, les mauvaises conditions ont fait chavirer un bateau transportant des migrants et les gardes-côtes recherchaient encore 20 personnes, 3 ayant été sauvées et 4 autres ayant réussi à nager jusqu'au rivage. Ian a été rétrogradé en catégorie 1, a annoncé le Centre national des ouragans américains vers 3 heures temps universel. Les dirigeants russes, ou plutôt en Afghanistan, parlons de l'Afghanistan, les talibans ont tiré en l'air jeudi pour disperser un rassemblement de 25 femmes, rassemblement organisé devant l'ambassade d'Iran à Kaboul en soutien aux Iraniennes qui manifestent dans leur pays depuis plusieurs jours. Femmes, vie, liberté, l'Iran se soulève, maintenant c'est à notre tour. De Kaboul à l'Iran, dites non à la dictature, ont scandé les manifestantes afghanes derrière des banderoles que les talibans leur ont arrachées des mains. Les dirigeants pro-russes des régions ukrainiennes occupées totalement ou partiellement par Moscou ont réclamé mercredi l'annexion à la Russie au lendemain de référendums qualifiés d'illégaux par Kiev et ses alliés occidentaux qui ont promis des sanctions. La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Pour mieux répondre aux besoins alimentaires de sa population, le Niger s'est doté d'une plateforme numérique sur les marchés agricoles, baptisée AgriShop Raiwa. Créée en coopération avec l'Agence de développement numérique et la Fondation suisse pour la coopération technique, cette plateforme de e-commerce veut, entre autres, faciliter la mise en relation entre les agriculteurs et les acheteurs. Au Sénégal, la première phase du développement de la Côtière, l'autoroute qui va relier Dakar à Saint-Louis, va bénéficier d'un appui financier de Riyad. Le Fonds saoudien pour le développement a signé un accord de prêt de développement d'une valeur estimée à 63 millions de dollars. Cela permettra de financer la première phase de ce projet de l'autoroute côtière à deux voies, Dakar-Saint-Louis, Dakar-Tivaouane. La Commission européenne a proposé hier aux États membres de l'UE de plafonner le prix du pétrole russe et d'ajouter de nouvelles restrictions aux échanges commerciaux avec la Russie, a annoncé sa présidente Ursula von der Leyen face à la nouvelle escalade de Moscou en Ukraine, notamment l'organisation des référendums d'annexion.
Merci Claire. À présent les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Brésilien Richarlison cible d'actes racistes lors du match Brésil-Tunisie.
Oui, alors qu'il venait d'inscrire le deuxième but du Brésil dans cette rencontre de préparation au Mondial 2022, l'attaquant brésilien a été visé par quelques projectiles venus des gradins, dont une banane qui a atterri sur la pelouse. L'air contrarié, Richarlison est retourné se replacer après avoir fêté son but avec ses équipiers. Il a fustigé ce qu'il qualifie de blablabla des dirigeants dans la lutte contre le racisme et appelé à davantage de sanctions contre ce genre de gestes. La fédération brésilienne a condamné cet incident. À Tunis, la fédération tunisienne de football a déclaré qu'elle condamne fermement tout acte raciste dans les stades. Elle a ajouté que l'écrasante majorité des supporters tunisiens ayant assisté au match se sont comportés d'une manière exemplaire.
Karim Benzema de retour à l'entraînement.
Absent des terrains depuis sa blessure à la cuisse droite début septembre, Benzema a fait son retour à l'entraînement mercredi avec le Real Madrid et se sent prêt à jouer dimanche en championnat. Le Real reçoit Osasuna pour le compte de la 7e journée de la Liga. Benzema avait dû sortir dès la 30e minute lors du match face au Celtic Glasgow. Le 6 septembre en Ligue des Champions, le corps médical avait diagnostiqué une lésion au muscle semi-tendineux ainsi qu'une surcharge musculaire tous deux au quadriceps de la jambe droite, avait alors indiqué son club. Sa reprise intervient à point nommé avant un mois d'octobre exigeant pour le club merengue avec des rencontres de Ligue des Champions et le Classico en Liga contre le Barça le 16 octobre.
Pour Thierry Henry, la vidéo assistance à l'arbitrage tue la joie du jeu.
L'ancien international français estime que faire appel à la VAR, vidéo assistance à l'arbitrage lors des matchs de football, prend trop de temps, ne fait qu'augmenter les controverses et tue la joie du jeu. Thierry Henry a fait cette affirmation lors de la Leaders Week Sport Business, qui réunit plus de 3000 des plus hauts dirigeants de l'industrie mondiale du sport, du 26 au 29 septembre à Londres. Il dit n'avoir rien contre la technologie en général, mais qu'il est contrarié par la perte de temps lors des visionnages en comparaison avec d'autres sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, c'est ce mercredi que s'est ouvert à Conakry le procès des massacres du 28 septembre. Parmi les accusés en détention figure l'ancien chef de la junte, Moussa Dadis Camara. C'est donc un espoir pour les victimes qui vont enfin entendre les témoignages sur les exactions qui ont coûté la vie à plus de 150 personnes issues des rangs de l'opposition qui manifestaient le 28 septembre 2009 contre une éventuelle candidature du capitaine Dadis Camara à la présidence. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Devant les écrans géants et au pied des marches menant à la toute nouvelle salle d'audience du tribunal ad hoc, quatre discours ont été prononcés à l'occasion de la double cérémonie, inauguration des installations et ouverture des audiences. D'abord, le bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Djibril Kouyaté, a souhaité que des massacres de masse ne se reproduisent plus jamais en Guinée.
Le succès de ce procès reposera en grande partie sur l'indépendance des juges, l'indépendance judiciaire. Il faut le rappeler, est un des piliers sur lesquels repose l'état de droit. Le juge du procès du 28 septembre doit être indépendant. Cette indépendance est importante parce qu'elle garantit que les juges guinéens sont libres de décider honnêtement et impartialement selon le droit et la preuve, sans contrainte d'ingérence, de contrôle ou d'influence abusive de la part de qui que ce soit.
Selon une enquête des Nations Unies, il y a eu plus de 150 morts, 109 femmes ont été violées au stade du 28 septembre de Conakry. Pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Pramila Patin, ce procès va permettre de tourner la page de l'arbitraire.
Les dossiers du 28 septembre constituent un véritable baromètre de la volonté du pays à faire face à son passé, ce qui devrait renforcer la cohésion sociale et favoriser une réconciliation nationale véritable. Je formule le vœu que tous les acteurs du procès seront à la hauteur de l'événement et leur réaffirme mon soutien pour le noble travail qui les attend.
Le procès s'ouvre 13 ans après les exactions. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme salue la volonté politique et rassure Alphonse Charles White.
Le président de la transition, chef de l'État, avait pris la responsabilité politique devant le peuple souverain de Guinée à déterminer avec précision les axes stratégiques de la refondation de l'institution judiciaire à travers une politique pénale cohérente basée sur les valeurs d'impartialité, d'intégrité, de redevabilité et surtout de rigueur. Est-il important de rappeler devant la communauté nationale et internationale que la politique pénale de notre pays n'est pas celle de la complaisance.
Pour les victimes, c'est un moment d'espoir.
J'aimerais que les bourreaux soient traduits à la justice et qu'ils soient condamnés.
On va dire Dieu merci, on attend, on ne fait que attendre pour témoigner.
Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a assisté à l'ouverture du procès à Conakry. Une douzaine de personnalités militaires et civiles, dont l'ancien chef de la junte, sont inculpés et poursuivis pour, entre autres, meurtre, viol, coups et blessures volontaires, enlèvement et séquestration. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Sénégal, les nombreux accidents mortels de la route inquiètent les populations. En l'espace de 48 heures, les routes ont tué 18 personnes entre Dakar et l'intérieur du pays. Entre véhicules vétustes et chauffeurs amateurs, les routes tuent de plus en plus. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
En deux jours, il y a eu 9 morts dans une collision entre un bus et un véhicule de transport public, 7 morts sur la route de la station balnéaire de Mbourg et 2 autres dans la banlieue de Dakar. Pour Maïssa John, qui a obtenu son permis de conduire depuis 2010, les chauffeurs ne doivent pas se voiler la face. Ils doivent accepter qu'ils sont responsables de ces drames.
C'est les chauffeurs qui ne savent plus ce qu'ils font. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas le code de la route et font n'importe quoi. Beaucoup apprennent à conduire après qu'on leur ait acheté le permis. Tu vois certains conduire en campagne n'importe comment. Il y en a qui doublent en plein virage. D'autres qui ne savent rien, d'autres qu'accélérer et freiner. La majeure partie du temps, quand il y a un choc frontal, c'est soit que le conducteur s'est endormi, soit il n'était pas attentif au moment du choc.
L'indiscipline de certains chauffeurs est aussi pointée du doigt. Abdou Kane, qui attend à l'arrêt bus, pense que beaucoup de conducteurs ne sont pas assez matures pour faire dans le transport en commun.
Pour moi, c'est juste un problème de formation. Après les cours de conduite, les chauffeurs doivent suivre une formation d'éducation civique. Ils doivent éviter de faire des courses sur la route. Il faut être responsable pour faire de la conduite, car si tu ne te soucies pas du sort de ceux que tu transportes, tu fais du n'importe quoi.
Pour le formateur et expert en sécurité routière Ibrahim Ndongo, si les routes sont devenues si meurtrières, c'est parce que les conducteurs ont comme une immunité qui les protège.
Le problème fondamental aujourd'hui se situe au niveau de la formation post-permis de conduire. Il faut le dire, aucune structure ne dispense aujourd'hui des formations appropriées post-permis de conduire. Et voilà, au Sénégal, dès lors qu'on a un permis de conduire, mais ce permis-là est solide. On ne peut plus le perdre presque. Les infractions ne sont pas automatisées. Ça se négocie quelquefois. Mais voilà le problème. Et chacun fait de ce, comme il veut sur les routes.
Entre 2017 et 2020, on estime que 3000 personnes sont mortes sur les routes sénégalaises en dépit des efforts consentis par les autorités. Au-delà du coût humain, ces accidents constituent un fardeau pour l'économie. En 2021, le ministère des Transports terrestres a évolué à près de 163 milliards de francs CFA, le montant injecté dans la sécurité routière, mais l'hécatombe continue. Céline Abagé à Dakar pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Les experts en technologie et communication estiment que les médias sur le continent africain doivent s'adapter au monde numérique et générer des revenus pour mieux répondre aux exigences du moment. Réunis à Kigali pendant 2 jours, ces responsables ont indiqué que les médias doivent également prendre en considération les jeunes qui constituent une majorité de la population africaine. De Kigali, les détails avec Jean Demassène Manishimwe.
Les responsables des organes des médias et les experts dans son domaine sont unanimes à dire que le secteur des médias ne peut pas faire fi du développement du numérique qui influence tous les domaines de la vie actuellement. Pour ce faire, les médias doivent bien s'adapter au monde qui évolue et viser l'autonomie pour travailler plus librement. C'est le point de vue de Carole Wachira Wanyama, directrice commerciale au Royal Media du Kenya.
Je pense que les médias traditionnels continueront d'exister et ce sont eux qui permettront de financer ces nouvelles plateformes dans l'avenir. Nous savons qu'un grand nombre de notre audience se déplace vers le numérique. C'est une réalité dont on ne peut pas se passer. Il nous faut plutôt travailler et bien travailler et transférer le contrôle que nous avons sur le moyen traditionnel vers le numérique. Nous devons avoir des stratégies bien claires de maximiser les opportunités de revenus sur le moyen traditionnel afin qu'il continue d'entretenir la croissance du numérique dont la monétisation prendra plus de temps.
Se concentrer sur l'innovation de manière à numériser la prestation des services et à tirer parti de la technologie pour atteindre le public est l'un des éléments clés du développement durable dans l'industrie des médias. Peter Limbag, directeur général de la DTVD, est d'avis qu'il faut générer de l'argent sans perdre son audience. Il est très important de trouver de nouveaux moyens de générer de l'argent à travers nos contenus, car c'est un grand problème dans le monde numérique. Et cela signifie que nous devons embrasser le monde digital sans dépenser trop d'argent. Je pense que nous sommes sur une bonne voie d'arriver aux jeunes Parce qu'en Afrique en particulier, vous devez parvenir aux jeunes, sinon vous perdez le marché. L'on déplore par ailleurs certains obstacles au développement des médias consécutifs à l'évolution rapide de la technologie, lesquels obstacles doivent être surmontés pour que les médias puissent continuer à jouer leur rôle. Marie Letitia Mugabo est responsable d'une radio-télévision privée au Rwanda.
Il arrive que les informations importantes soient devancées par de fausses informations provenant des gens qui ne savent rien du journalisme. Là où qu'ils ne se lèvent le matin, créent une chaîne YouTube et ils postent des informations qui peuvent être nuisibles. Il peut s'agir des informations fausses avec un contenu non important.
Cette 7e édition de la conférence Next TV CEO Africa, qui a rassemblé divers acteurs des organes, des médias, des entreprises de télécommunications et d'autres partenaires, a également mis l'accent sur la nécessité pour les médias africains de nouer des partenariats avec ceux du monde entier pour élargir leurs opportunités de développement. Jean Damasceni Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Le fondateur du groupe paramilitaire Wagner sort de l'ombre dans un communiqué de sa société de restauration Concorde. Evgeny Prigogine, 61 ans et surnommé le cuisinier de Poutine, confirme qu'il a bien fondé en 2014 le groupe Wagner, d'abord pour envoyer des volontaires dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Et en 2018, ce groupe Wagner est accusé de prendre pied en Afrique. Trois journalistes russes qui enquêtaient sur les affaires de cette société paramilitaire ont été tués en Centrafrique. Eric Manirakilza a joint à Paris Sergueï Tchernov, ancien agent du KGB, principal service de renseignement de l'ex-Union soviétique.
Du coup, il sort de l'anonymat parce que tout simplement, à mon avis, il ne pouvait plus le nier. Parce que toute cette configuration qui pouvait paraître évidente, bien évidemment pour les gens qui sont les experts dans la question et pour les investigateurs, mais qui ne pouvait pas être affirmée tant qu'on n'avait pas les preuves documentaires. Donc tout ça est devenu évident après le début des opérations en Ukraine. Parce que Poutine, on ne sait pas pourquoi, a décidé d'employer la force de ses compagnies militaires, dont Wagner, parce qu'il n'y a pas que Wagner, il y a d'autres compagnies privées et militaires. Et donc, il a utilisé cette compagnie Wagner en Ukraine pour leur demander de faire des choses, des tâches que l'armée russe régulière ne pouvait pas faire, y compris les exactions, y compris les tortures, y compris des choses qui seraient réputées comme crimes de guerre autrement qu'à des mercenaires comme ça. Et donc, je crois que sous l'évidence, il ne pouvait plus nier, surtout lorsque Prigogine, en plus, a reçu l'ordre aussi de recruter les prisonniers pour les engager dans sa compagnie et pour les envoyer sur le front ukrainien.
Donc, Wagner, c'est pour faire le sale boulot. On sait que la société est impliquée dans certains pays en Afrique, comme en Centrafrique et au Mali. Que peut-on attendre de la Russie et de Wagner?
Déjà en Ukraine, c'est pour non seulement pour faire le sale boulot, mais aussi, disons, pour pas que les gens qui meurent pendant cette guerre augmentent les chiffres de pertes pour l'armée. Donc en fait, c'était une sorte la possibilité aussi de cacher les pertes sur le front. Donc c'était un avantage collatéral d'employer ces compagnies. Et d'autre part, ça donnait aussi un avantage énorme pour le budget de l'État russe, parce que l'État russe, quand il prenait des contractuels pour aller combattre dans cette opération spéciale en Ukraine, en cas de blessure ou en cas de perte, il devait payer des sommes assez importantes aux familles. Tandis que quand ces gens signaient un contrat avec la compagnie Wagner, le moment était complètement différent. Donc voilà, donc ça c'est le côté peut-être juridique et financier qui arrangeait peut-être l'État russe d'employer ces compagnies. Ce qu'ils font en Afrique, c'est un peu différent parce que, si vous voulez, ce n'est pas des batailles régulières, ce n'est pas la guerre, c'est plus des opérations spéciales, c'est plus les petits commandos. Et d'ailleurs, en fait, la plupart du temps, ils servent tout simplement de petites armées privées, style protection de personnalité. Et donc, ils fournissent les services de protection de personnes aux dictateurs, travailleurs africains qui sont sous le coup d'un coup d'État dans leur pays ou d'une contestation populaire dans leur pays. Donc voilà, ils rendent ce service-là. Ils font de la corruption des leaders africains.
Sergueï Djinov, ancien agent du KGB, principal service de renseignement de l'ex-Union soviétique. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebudia. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. À la console, Jonah Kabins. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.